ce que nous avons déjà travaillé ou sur ce qui va venir. C'était donc d'une limpidité diaphane. Je m'en réjouis. Et je gagne du temps. Aussi j'avance. Et on verra ensuite. Alors, nous abordons le point 3 de notre plan, comme convenu. C'est la séance d'aujourd'hui. Ce qui est requis pour une prière authentique et efficace dans et pour l'Église. Donc nous abordons une tranche du chemin de la perfection assez conséquente, assez nourrissante, 15 chapitres, plus du tiers du livre, et donc qui représente une importance dans l'architecture de l'ensemble. Avec le chapitre 4, nous en terminions avec cela hier, se sont nouées les trois choses qui nous rendent tels, n'est-ce pas? Je voudrais vous le mettre en grand, enfin, je ne sais pas comment dire, tales en espagnol, ser tales. Trois choses qui nous rendent tels, que le Seigneur écoute nos prières, exauce notre intercession pour l'Église qui souffre de la rupture de l'unité de sa foi et qui souffre aussi, c'était présenté de manière plus voilée par Sainte Thérèse, de la médiocrité des chrétiens et en particulier des ministres, puisqu'elle prie pour la sainteté des ministres et des prédicateurs de la vérité. Donc, par contraste, une certaine médiocrité. Ça va ? C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Nous avons vu la grandeur de l'idéal entrevu, et décrit par Thérèse à ses sœurs carmélites. Donc la prière comme mission d'Église en elle et pour elle. C'est, comme elle le dit au début du chapitre 4, paragraphe 1, « Vous voyez mes filles, vous avez vu mes filles, la grande entreprise que nous désirons, projetons, prétendons gagner. » C'est la première phrase du chapitre 4. D'accord ? Alors, dans le seuil, il y a des cafouillages de chapitres, il y a des décalages de chapitres. Hein, ça commence maintenant. Souvent, après, il y a deux chapitres de décalage. Enfin, vous ferez ce que vous pourrez. Voilà. Et donc, Sainte Thérèse a entrepris une grande entreprise. Elle est petite fille de commerçant d'origine juive de Tolède, ayant échappé à l'inquisition de Tolède et s'étant réfugiée à Avila et s'étant insérée dans la société par un mariage avec des filles de l'aristocratie d'Avila pour pouvoir se glisser dans la société. Donc elle a le sens de l'entreprise, c'est clair, elle a le sens du commerce. Et elle a le sens du gain, elle parle toujours du gain, l'oraison est un gain, ganancia, il n'y a rien à faire. Elle a ça dans la peau, ça vient de son grand-père. Bon. Grande entreprise que dissimulait la modestie, que je crois non feinte, du prologue, vous vous rappelez. Au centre et comme chemin de perfection lui-même, Thérèse met la prière dans les premiers chapitres, chapitres 1, 3 et 4 spécialement. Mais vous avez déjà pu remarquer combien affleurent des problématiques liées au contexte ecclésial et social de Thérèse. D'une part, la situation complexée de la femme du XVIe siècle dans la société et l'Église d'Espagne, jusqu'à un certain point pour Thérèse, n'est-ce pas? Et ensuite, par rapport à la prière, donc la prière mentale, l'oraison mentale, est une question. Une grande question, pour ne pas dire la question, qui traverse la spiritualité du XVIe siècle espagnol. Alors, il faut que vous perceviez une nuance. Quand je dis « oración » comme Sainte Thérèse en espagnol, je veux dire « oration » en latin, c'est-à-dire toute forme de prière. D'accord ? Alors, quand elle veut préciser ce que nous, en français, depuis le XVIIe siècle, surtout avec l'école française et le Carmel aussi en France, nous appelons l'oraison, et ce que nous appelons l'oraison ici, dans cette faculté et dans cet institut, n'est-ce pas ? Dans le Carmel, c'est-à-dire la prière personnelle, intérieure, silencieuse, on est d'accord ? Ah, c'est ça que c'est ça, normalement. Hein ? Eh bien, elle précise à chaque fois, elle doit préciser mental, l'oraison mentale, ça va ? Par contraste avec la oración vocale, avec la voix parlée qui dit des mots. Prière vocale. Ça va ? Alors, l'oraison, dans le sens français, c'est-à-dire la prière mentale, dans le sens espagnol, ça va ? Bon. Et l'objet de polémique est une question problématique dans ce XVIe siècle espagnol, catholique, siècle d'or. Vous le percevrez tout au long du chemin de la perfection, spécialement dans les chapitres que nous étudierons demain, chapitres 19 à 29. L'oraison est contestée. Pourquoi ? Des déviations sont apparues dès les années 1520-1530. Dans la mouvance des franciscains. Il y a une école franciscaine qu'on appelle los recogidos, les recueillis. Cette école franciscaine des recueillis, cette école était l'héritière de la mystique réno-flamande, de la devotio moderna qui favorisait l'intériorité et la subjectivité. Jusque-là, pas de problème. Mais les hommes et les femmes étant ce qu'ils sont, ne pouvant être autrement. Alors, avec ces mouvements de recueillement, on est tombé parfois, je ne veux pas dire souvent, mais c'est arrivé, on est passé de recogidos en espagnol à dejados. Alors, en espagnol, ça veut dire abandonné, entre les mains de Dieu, d'accord ? Alors, par des techniques de passivité dans la prière, de remise de soi à Dieu, de passivité jusque dans la vie, hein, la vie morale même, hein. Bon, dejados, abandonné. Donc ça commence à dévier un peu. Et cela pouvait aller jusqu'à ce qu'on appelle les alumbrados. Les illuminés. Ces illuminés vivant une expérience intérieure d'immédiateté, de contact immédiat avec Dieu, la divinité, comme vous voulez, hein, se jugeant, se sentant, s'éprouvant. Éclairé, illuminé, tel Moïse, tel Saint Paul, tel Vierge Marie, etc. Alors, ces courants, lorsque ça se cristallise, qui ne sont en soi pas en rapport direct avec le luthéranisme, le protestantisme évoqué par Thérèse, dès le début du chemin de la perfection, ont certaines caractéristiques quand ça s'affirme, quand ça s'accentue. Bon, il y a plusieurs foyers en Espagne, plusieurs régions bien caractérisées. La région d'Alcalá, pas très loin de Madrid, la région de Valladolid, en Castille du Nord, la région d'Estrémadour et d'Andalousie, en particulier les lieux que fréquentera plus tard Saint Jean de la Croix. Bon. Donc, il y a des lieux bien typés. Alors, les accents sont les suivants. Très, très habituellement, il méprise la prière vocale qu'il considère comme répétitive, extérieure et bavarde. Ne répétez pas, ne rabâchez pas comme les païens, d'accord? C'est leur leitmotiv. Bon. Autre accent, ils ont nettement tendance à vivre en marge du magistère de l'Église et de ses dogmes. Voilà, bon. C'est une expérience très, comment dire, très, qui a tendance à devenir marginale. C'est ça? Bon. Et aussi des exigences, des contraintes morales. Donc, il y a quelquefois des dérapages assez notables sur le plan moral. Et parce que quand on est abandonné à Dieu, tout ce qu'on fait est bien, même ce qui est mal. C'était les prétentions de certains. Bon, donc évidemment, donc il n'y a plus besoin de loi, il n'y a plus besoin de commandement. Enfin, vous voyez le style, quoi. C'est assez intéressant. Bon, donc il y avait cette prière intérieure, soi-disant intérieure, allait de pair avec certaines incohérences morales qui commençaient à devenir assez notoires, quoi, et scandaleuses. Bon. Et puis ensuite, alors c'est assez intéressant aussi, ça. Ils avaient tendance à exalter la place des laïcs face ou contre les clercs. Le rôle de l'expérience spirituelle face à la théologie dogmatique. De ces groupes, un certain nombre de femmes étaient devenues les leaders ou les animatrices. Voilà, donc un petit peu ce qui se fait jour. Alors, il y a d'un côté ça, ces foyers d'abandonner ou d'illuminer. C'est vrai, assez souvent dans la mouvance des franciscains, ça c'est vrai aussi. Certaines figures assez emblématiques. Et puis alors évidemment, ça provoque une réaction hyper rigide et une polarisation, typiquement espagnole, il faut bien dire. Et donc du côté de la hiérarchie, une espèce de crispation. Et donc des théologiens, des inquisiteurs, alors qui vont s'opposer complètement aux pratiques d'oraison mentale, jugées déviantes, sources de déviation, qui vont vouloir les interdire, les dévaloriser, les déprécier. Qui vont opposer la valeur unique et exclusive de la prière vocale, prière de l'Église, prière des foules, prière des laïcs qui n'ont pas besoin de faire tant d'histoires, tant d'intériorité, tout ça, vous voyez ça, hein? Donc, ça provoque un certain durcissement, c'est clair. Donc, ça ne va pas arranger les affaires de Sainte Thérèse, hein, qui est lancée dans cette expérience. Et au fur et à mesure que le siècle avance, les durcissements s'accusent, la polarisation s'accuse. Et donc, c'est au point que des gens célèbres, des maîtres d'oraison, de vie spirituelle, comme Louis de Grenade, un dominicain, avec son guide des pêcheurs, son art de l'oraison et de la méditation, Pierre d'Alcantara, avec son petit livre sur l'oraison, etc., seront suspectés. Donc c'est les grandes figures, Jean d'Avila, dont on va faire un docteur de l'Église. Il passera quelque temps dans les geôles de l'Inquisition. Donc vous voyez, hein, c'est une période où il y a ces durcissements. Alors c'est très net, vous allez voir dans les chapitres que nous étudierons, dans le chemin de la perfection, on est dans ce contexte. Et Thérèse navigue dans ce contexte entre ces différents extrêmes, ces différents écueils. Toutes ces affirmations, et aussi, ça nous, connaissant ce contexte, nous allons pouvoir apprécier son équilibre et sa synthèse. C'est assez clair, cela ? Oui ? Bien. Nous verrons aussi pourquoi il y a certaines expressions un peu ironiques et à la limite du polémique aussi. C'est vrai aussi. Ça s'explique. Bien. Alors, avançons maintenant dans notre troisième point. Et vous voyez qu'il se situe bien dans la problématique que je viens d'évoquer. Car ce que Thérèse nous propose maintenant, alors que son projet est de nous parler de l'oraison, de quelques points de l'oraison, eh bien, elle nous parle d'autre chose. Elle nous parle de vertu. Elle nous parle de trois vertus qui sont absolument nécessaires à l'oraison contemplative, qui vérifie l'oraison contemplative, qui sont une disposition nécessaire et sans lesquelles on ne peut avancer sur le chemin de la perfection. Vous voyez cela ? Et donc, au fond, elle va montrer, elle va témoigner, cette partie-là de manière assez sereine, que l'oraison, ça rime avec les vertus. Et donc, l'intériorité, la prière intérieure, ça va avec une cohérence de vie et de vie chrétienne, morale, vertueuse. Ça s'appelle mutuellement. Ça se requiert. Donc, il n'y a pas de danger à faire oraison. Le danger de tomber dans une vie qu'on voyait dans les déviations des illuminés. Elle montre de manière assez sereine, cette partie-là en tout cas, que oraison et vertu, ça va ensemble. Que intériorité et vie morale, ça va ensemble. C'est bon ? Donc on est tout à fait dans ces axes et dans ces problématiques que nous avons évoquées. Le premier point, l'amour des unes pour les autres. Évidemment, elle parle au féminin. Il y a donc un défi de l'amour mutuel pour Thérèse. Vous avez remarqué à plusieurs détails des chapitres que nous avons lus hier, des textes que nous avons lus, à quel point Thérèse était sensible à cet aspect fraternel, à ce que la valeur de sa propre prière vient de ce qu'elle est couverte par la vertu et la sainteté de ses sœurs, que le mérite de sa prière vient du mérite du Christ, et dans le mérite du Christ, du mérite de la Vierge et de ses sœurs. D'accord ? Voilà, mérite, c'est la valeur. C'est la valeur. Mérite, c'est ça. La valeur de ce que nous faisons. La valeur de ce que nous faisons qui vient de la valeur de ce que Jésus a fait et souffert pour nous dans la grâce de l'Esprit-Saint. C'est ça le mérite du Christ. Oui, c'est clair, hein? Et nous ne pouvons mériter que dans son mérite, bien sûr. Notre mérite n'est que relatif et dépendant. Ça va? Ah oui. Elle a les choses bien en place. Nous l'avons vu dans le texte que nous avons lu hier. Alors, les sœurs, la communauté, le collège du Christ qu'elles forment a donc une très grande importance pour l'efficacité de la prière, pour cette mission qui leur est confiée et cet idéal que Thérèse a entrevu et décrit. Elle dit tout de suite, nous n'allons pas pouvoir tout travailler, ce sont les chapitres 4, la fin du 4. Alors le 5, c'est un petit peu spécial, parce que ça concerne l'amour des confesseurs. Les confesseurs font partie du prochain, ça c'est clair. Alors, on va un petit peu sauter à pieds joints dessus, c'est intéressant, mais en même temps, bon, c'est très particulier. C'est très lié à la... Remarquez, c'est assez intéressant, hein, mais bon. Et donc, ensuite, nous avons les chapitres 6 et 7. Voilà. Alors, pour Thérèse, l'importance de l'amour mutuel n'a pas besoin de démontrer, puisqu'il s'agit du commandement du Seigneur lui-même. Hein, c'est donc l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Jean 13, 34. Donc, ça n'a pas besoin d'être démontré. Et le Seigneur lui-même l'a démontré par sa vie et sa passion. Hein. Mais Thérèse nous fait comprendre que cet amour mutuel comporte certains risques, certains défis, et que sa mise en œuvre offre plus d'une difficulté. Thérèse et ses sœurs sont en effet en chemin vers l'amour. Alors, Thérèse emploie plusieurs adjectifs. Elle dit « parfait », elle dit « vertueux », elle dit « spirituel ». Tout ça, c'est synonyme. « Parfait »,« vertueux », »,« spirituel ». Donc elle voudrait pas avoir à insister, mais l'expérience lui a montré que c'est pas si évident, et comment dire, c'est d'autant moins évident qu'on est toujours ensemble dans une communauté de 12 ou 13, vous voyez ça, hein? Bon, voilà, ça peut être un paradis, mais ça peut être aussi un enfer, bon. Parce qu'on choisit son mari, on choisit sa femme, mais on ne choisit pas ses sœurs ou ses frères dans la vie religieuse ou consacrée, n'est-ce pas? Donc, évidemment, on est avec le prochain, c'est le plus proche, on ne l'a pas choisi, il y a un réalisme. Que doit être cet amour des unes pour les autres? Et qu'est-ce que l'amour vertueux que je veux voir régner parmi vous? Et à quel signe reconnaîtrons-nous que nous le possédons? Donc, l'affaire est assez délicate. Alors là, j'ai même les pages dans le seuil. C'est page 605. Vous allez être privilégiés. Sinon, c'est le paragraphe, je pense, 8. 4-8. Ça va ? Bon, je vous donne les références. On ne va pas tout lire. Hein. On va lire quelques morceaux. Hein. Ça y est, il suffit que je vous donne des références pour que vous soyez en peine, non ? Si je ne me trompe pas, c'est 4. Eh bien, ce serait plutôt 11, oui, en effet. C'est bien 8, non, page 605, normalement c'est 8, je crois. Ou alors c'est 3. Écoutez.
C'est quoi?
Oui, que doit être cet amour des unes pour les autres? Et qu'est-ce que l'amour vertueux que je veux voir régner parmi vous? Et à quel signe reconnaîtrons-nous que nous le possédons? Vous l'avez? Page 605, c'est pour ça, vous êtes les privilégiés du régime aujourd'hui. C'est chapitre 4, je répète. 4. Ah, mais si vous êtes dans Marcel Aubert, c'est encore autre chose.
Ici, c'est chapitre 5.
Alors, dans le seuil, c'est chapitre 5. C'est pour ça que nous ne voulons pas vous écouter avec vos références. Je vous les donne et après, vous vous taisez. Vous allez embrouiller tout le monde. Donc, dans les éditions normales, légitimes, licites, eh bien, c'est le chapitre 4. Ça va ? Du chemin de perfection de Valladolid, pas là, évidemment. Si vous cherchez dans l'Escorial, alors on s'en sort pas. Bon, non, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas 4-11 quand même. Hein. C'est 4-11, voilà, c'est ce que j'ai noté quand même. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Alors, ce qu'elle va nous faire comprendre là, c'est tout à fait repris par le père Mario Gênes dans « Je veux voir Dieu » dans le chapitre sur les amitiés spirituelles, qui est le chapitre 6 de la deuxième partie. Il l'a vraiment commenté, développé, interprété. C'est tout à fait intéressant. C'est quelque chose qui lui a paru essentiel. Donc, chez Sainte Thérèse, il y a différents niveaux, qualités d'amour pour le prochain. Amour fraternel ou amour mutuel. Donc, comment dire, c'est un peu comme dans le vin, il y a plusieurs degrés, quoi. Hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, je ne dis pas des bêtises, parce que ce vin du cellier intérieur de l'épouse dans le Cantique des Cantiques, c'est la charité. Donc, ce n'est pas si stupide ce que je dis, d'accord? Bien. Alors, il y a donc des degrés ou des dimensions de l'amour, des niveaux de l'amour qu'elle essaie de nous faire comprendre. Eh bien, c'est pas champion. D'accord. Alors, il y a... Le Père Marie dit c'est selon les dosages, donc degrés. Donc l'amour spirituel, l'amour sensible spirituel, sensible et ou sensible spirituel avec un tiret, spirituel, donc un mélange, et puis l'amour sensible. Alors, vous voyez qu'ici, si vous avez une bonne théologie morale, hein, vous voyez qu'ici, ce qui interfère par rapport à l'amour spirituel, hein, dans l'Esprit Saint, dans la charité, c'est la question des passions. On est dans le domaine de la sensibilité des passions. Et là, ici, elle dit, mais ça, j'en parle pas, l'amour sensuel, hein, bon, physique, hein, charnel. Elle dit, bon, ça ne nous concerne pas. Nous avons fait vœu de virginité. Hein. Mais après, dans l'amour sensible, elle va évoquer tous ces liens sensibles d'affection, familiaux, etc., hein, humains. Hein. Et après, vous comprenez qu'il y a tout ce domaine très intermédiaire et très mélangé ici hein, pour monter jusque-là. Hein. Bien. Et ici, ça ne veut pas dire désincarner, je vous dis tout de suite. Ça va ? Bon, elle va soulever l'objection et y répondre. Donc, si vous voulez, l'amour spirituel sensible, c'est un amour bon, il est licite, entre les parents et les amis. Bon, voilà. Mais, quand on s'est consacré à Dieu et qu'on veut aimer le prochain en Dieu et pour Dieu, alors il faut que ça monte un peu. Voilà ce qu'elle veut nous faire comprendre. Amour vrai, parfait, spirituel, c'est ça, vertueux, c'est ça qu'elle met derrière. Hein. Alors, comment va-t-elle aborder cette question? Donc, après tout un chapitre assez rigolo, intéressant sur les confesseurs et l'amour des confesseurs. Donc, la transition, c'est par l'amour. Donc, est-ce que c'est licite d'aimer les confesseurs? Et Sainte Thérèse a aimé ses confesseurs. Même ceux qui ne l'aimaient pas, elle les a aimés et elle les a conquis, elle les a séduits, c'est très clair. Hein. Même les plus terribles, les dominicains les plus terribles, donc voilà, de Salamanque. Bien. Alors, elle met en place aussi comment il doit y avoir une liberté dans les confessions, etc. Tout ça, c'est passé dans la réforme thérésienne, hein, c'est tout à fait, c'est resté d'ailleurs, hein, ce grand désir de liberté. Voilà, bon. Alors, tout ça est très bien. Alors, nous passons au chapitre 6 et 7. Vous voyez bien que du côté de la sensibilité des passions, c'est pas toujours en ordre, ça interfère, c'est pas toujours en ordre. Il y a de grandes tristesses, de grandes joies, etc. Hein. Donc, ça a besoin d'être un petit peu purifié, tout ça, hein, remis en ordre, enfin, ainsi de suite. Hein. Bon. Alors, nous allons voir quelques points. Vous avez donc chapitre 6 et 7 dans les éditions licites et dans le seuil, chapitre 7 et 8. Ça va ? Page 612 et ainsi de suite. Ça peut aller ? Bon. Alors, revenons donc, chapitre 6, paragraphe 1. Revenons donc à l'amour qu'il est bon que nous nous portions. celui qui est purement spirituel, il n'est peut-être pas nécessaire d'en parler parce que peu le possèdent. Donc ça commence mal. Bon, peu le possèdent, c'est pas la peine d'en parler. Bon, c'est un peu embêtant. Alors, celui qui l'aura reçu du Seigneur, qui l'en loue beaucoup, ce doit être la marque d'une très grande perfection. Enfin, je veux en parler un peu, cela sera peut-être d'un certain profit lorsque l'on met devant les yeux la vertu, celui qui la désire et veut l'obtenir s'y attache. Ça va? Vous avez ça? Bon, ou quelque chose de semblable, hein, c'est une traduction littérale que je vous offre. Hein. Bon. Premier point, c'est un amour reçu, donné, reçu. C'est pour ça qu'elle parle d'un amour spirituel. C'est dans l'Esprit Saint. C'est l'amour de charité, c'est l'amour agapé, c'est clair. Deuxième chose, bon, c'est rare, un amour rare. C'est rare et cher. Troisième chose, c'est un amour aimable. C'est, cela fait partie des leitmotivs de la pédagogie de Sainte Thérèse, rendre la vertu aimable. La vertu ne s'impose pas, elle est aimable. Celui qui la désire et veut l'obtenir s'y attache. D'accord ? Rendre la vertu aimable. Bien. Soyez aimable, dit-elle à ses sœurs, un peu plus loin, à la fin du chemin de la perfection. Soyez traitable, dit-elle. Aimable, traitable. Conversable, dit-elle. N'ayez pas un air renfrogné qui repousse tous les gens de Dieu à cause de vous. Je le dis très nettement. On verra ça en finale. Rendre la vertu aimable. Bon. Alors, ensuite, c'est au paragraphe 3. Un point assez essentiel. À savoir la racine de cet amour. C'est page 613 dans le seuil. Paragraphe 3, chez nous. Alors, ce petit texte, il faut quand même qu'on le lise, parce qu'il y a quelque chose de très, très thérésien. Tout à fait radical, c'est-à-dire à la racine des choses. Paragraphe 3. Il me semble à moi maintenant que lorsqu'une personne a été amenée par Dieu, est parvenue par Dieu à la claire connaissance de ce qu'est le monde, et quelle chose est le monde, ce que vaut le monde, et qu'il y a un autre monde, et la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, et que l'un est éternel, et que l'autre n'est qu'un rêve. N'est qu'un rêve. Ça va ? On est dans la culture baroque. En espagnol, soñado, vous avez une très célèbre pièce de Quevedo qui s'appelle La vida es de Calderón de la Barca, pardon. La vie est un songe, qui est souvent représentée même à l'étranger, traduite. La vie est un songe, la vie est un rêve. La vie est sueño. La vie est un songe et les songes sont des songes. Il y a tout un aspect du baroque sur, finalement, ce que nous appelons, nous, le virtuel. Finalement, le virtuel. Donc, bien, alors, et que tout le reste est rêvé, et du rêve, un songe. Et ce que c'est que aimer le Créateur ou la créature, et cela, de manière expérimentale, par expérience, vue par expérience, c'est tout autre chose, une toute autre affaire que seulement d'y penser et de le croire. Ou encore de voir et d'éprouver ce que l'on gagne avec l'un et ce que l'on perd avec l'autre, et ce qu'est le Créateur et ce qu'est la créature, et beaucoup d'autres choses que le Seigneur enseigne à celui qui veut bien se laisser instruire par lui dans la prière, ou à celui que Sa Majesté veut faire ce don, hein. Alors ceux-là, ces personnes-là, aiment d'une manière très différente de nous qui ne sommes pas parvenus à cela. Ça va ? Vous avez ce texte ? Non ? Vous avez un problème ? Alexa ?
Je préfère vous écouter parce que je...
Ah, d'accord, oui. Non, mais je ne veux pas dire que vous avez tort. Hein. Là, j'ai pris la littéralité du texte.
Mais si hein? vous pouvez résumer...
Résumer, c'est impossible à résumer. Chaque mot porte et est essentiel. Mais revenons. Redisons-le avec des mots plus modernes. Donc, le rêve, c'est le virtuel. D'accord? Nous sommes dans le virtuel. Bon. Alors, ce que Thérèse nous fait comprendre, c'est que à la racine de l'amour qu'elle propose, qu'elle veut éduquer hein, chez ses sœurs, il y a une connaissance, claire connaissance, une lumière radicale qui le rend différent des autres manières d'aimer. Une lumière qui vient de Dieu, qui est l'instruction, l'enseignement du Seigneur dans la prière. C'est une lumière, c'est une connaissance, une lumière de vérité, une connaissance éprouvée. Hein, ce n'est pas seulement de savoir, de croire. Hein, ce n'est pas seulement par l'intelligence et par la foi. Hein, mais c'est le Seigneur qui instruit, qui enseigne cela à celui qui veut bien se laisser instruire. C'est gratuit, celui à qui il veut. Ça va ? Bon. Et quelle connaissance, de quelle connaissance s'agit-il ? Eh bien, c'est une connaissance, et au fond, c'est ce que, dans la théologie du Saint-Esprit, on appelle le don de science. Bien sûr, oui. Elle n'a pas le vocabulaire des dons du Saint-Esprit, mais elle en a l'expérience, hein, comme dit le Père Marie-Eugène dans le chapitre sur les dons du Saint-Esprit, dans « Je veux voir Dieu », dans la troisième partie, hein, le deuxième chapitre. Donc, ce qu'est le monde, sa valeur, qu'il y a un autre monde, qu'il y a une différence, ce que c'est que d'aimer le Créateur et ce que c'est que d'aimer la créature. Alors, quand on sait cela, on aime différemment. On aime dans la vérité des choses et des êtres. Voilà. Et comme elle dit, cela aime bien différemment de nous qui se met dedans, qui ne sommes pas parvenus à cela. Donc, cet amour parfait, vrai, spirituel, jaillit de la vérité vivante sur Dieu et sur l'homme, sur le Créateur et la créature, la disproportion, c'est sous-entendu. L'amour parfait trouve sa source dans cette rencontre préalable avec la vérité des choses, de la vie, du monde, des personnes, de Dieu. Et elle dit que c'est une lumière imprimée dans les entrailles. Elle dira un tout petit peu plus loin que les personnes que le Seigneur fait parvenir à cet état sont des âmes généreuses, des âmes royales. Qui ne s'arrêtent pas aux ombres, aux apparences, aux choses sans poids, sans volume. Sinon, elles n'auraient pas l'audace de dire à Dieu qu'elles l'aiment. Est-ce que vous trouvez ça? Mais oui, c'est le paragraphe suivant quand même. C'est pas difficile. Paragraphe 4. C'est le deuxième paragraphe du paragraphe 4. Ça va? Son estas personas que Dios las llega a este estado, almas generosas, almas reales. Les âmes royales. Elles ne se contentent pas d'aimer des choses aussi misérables que ces corps, aussi beaux soient-ils. Aussi remplis de grâce qu'ils soient, même s'ils sont beaux à voir et qu'elle en loue le Créateur. Elle n'est pas folle, Thérèse. Elle n'aime pas le lait pour le lait, hein, ça c'est clair. Elle était belle et séduisante elle-même. Hein. Mais pour s'y arrêter, non, on ne s'y arrête pas. Hein. Aimer, c'est s'arrêter à. Vous voyez ça? Aimer, c'est s'arrêter à. Il lui semblerait qu'elles aiment des choses sans importance, insignifiantes, sans valeur, symptômes, et qu'elles se mettent à aimer des ombres. La vie, le monde est un rêve, un songe, et on aime des ombres. Hein? Bon. et elle n'aurait pas le courage de dire à Dieu qu'elle l'aime. De ne pas dire à Dieu qu'on l'aime d'un amour premier et unique si on s'attarde à aimer ce qui n'est qu'apparence, illusion, sans épaisseur, sans valeur. Ça va ? Assez intéressant ça, hein ? Assez intéressant, c'est exigeant, hein, c'est sérieux, hein, mais voilà, il y a une lumière radicale. Une rencontre préalable avec la vérité, les choses de la vie des personnes de Dieu. C'est sûr, ce sont des âmes royales, généreuses. Donc c'est aussi un amour grand avec Sainte Thérèse. Il faut que les choses soient grandes et de la grandeur. Ça s'arrête pas à des petitesses, des enfantillages, des niaiseries, des choses insignifiantes. Ouais. Le grand Bagnès disait que Thérèse était grande des pieds jusqu'à la tête et qu'au-dessus, elle était incomparablement plus grande sur le plan de la grâce. Bon, c'est grand. Bien. Alors, et nous sommes déjà au paragraphe 5, vous allez voir, c'est assez sympathique parce qu'elle dialogue et donc ses sœurs sont dans les cellules à côté, hein. Peut-être en train de dormir ou de ronfler, que sais-je, de rêver peut-être. Et donc, vous me direz, alors, qu'est-ce que vous avez ? Ces personnes ne savent pas aimer ni
payer de retour
l'affection qu'on a pour elles. Alors, le mot aimer ici en espagnol, c'est pas amar, mais querer, qui veut dire chérir. Quand j'ai passé un examen de licence d'espagnol, je me souviens encore de ça, ça m'a laissé un souvenir cuisant. L'examinateur m'a posé la question, parce que c'était sur la littérature du siècle d'or, c'était, je crois, sur le Don Juan de Tirso de Molina, donc de l'époque de Sainte Thérèse, et il m'a dit, et en espagnol, quelle différence y a-t-il entre amar et querer ? Je ne savais pas quoi dire. Il m'a dit, mais vous êtes dans une université catholique, c'était un jury d'État. Vous êtes dans une université catholique, vous devez savoir. On dit, amar a Dios, aimer Dieu, et querer a una persona, et aimer une personne, et chérir une personne. Ça vous laisse des souvenirs impérissables. Quand on vous enlève quelques points pour ça, alors évidemment. Bon, alors voilà, là, elle met bien la différence hein, en espagnol. Bon, en français, c'est d'un plat, bon, on n'y peut rien, hein. C'est aimer, hein, c'est ça hein, c'est ça que vous avez Donc ces personnes, vous me direz, donc objection, ces personnes ne savent pas chérir ni rendre l'affection qu'on leur porte. Et elle dira un petit peu plus loin, alors elle a déjà une réponse, au moins ça leur importe peu qu'on ait de l'affection pour elles, il leur importe peu d'être aimé. Donc il y a déjà une réponse cinglante. Il leur importe peu au moins d'être aimé. Elles ne trouvent pas, elles ne cherchent pas à être aimées. Elles ne trouvent pas leur bonheur à être aimées. Alors, voilà. On a une première objection qui concerne, d'une certaine façon, une sorte d'insensibilité, une sorte peut-être d'inhumanité de cet amour, une sorte d'ingratitude, parce qu'il est naturel de désirer être aimé lorsqu'on aime. Alors elle va nous dire après, il leur importe peu qu'on les aime, si elles sont aimables, cela vient de Dieu. Hein. En elles-mêmes, elles n'ont rien d'aimable. C'est ça qu'elle nous fait comprendre ensuite. Vous allez voir, elle dit, il y a un grand aveuglement à vouloir être aimé des autres. Ça s'arrange pas. Il y a un grand aveuglement à vouloir être aimé des autres. Vous voyez, encore une fois, dans ce paragraphe, elle lit vérité et amour. C'est très important, ça. Vérité et amour. Il y a un grand aveuglement, manque de lumière, hein, à vouloir être aimé des autres. Vous voulez lire ce passage ? Paragraphe 5. Alors, on peut prendre deux lecteurs suivants, c'est possible ? Vous y allez, Père ?
Ces personnes, ou c'est celui d'après ?
Ces personnes, oui, allez-y. Ah oui, c'est compliqué. Allez-y, on va voir si ça marche.
Même direz-vous, ces personnes oui. ne seront pas donc shérif oui. payé de retour, c'est ça?
Voilà, ben, vous voyez que c'était, cette traduction est la meilleure.
Non, bon,
j'avais prévu. Ah, vous... ah. Quelle duplicité!
Les bon. Payés de retour, l'amour pour leur porte.
Bon.
Du moins, vous répondrai-je, il leur importe peu qu'on les aime. Mm-hmm. Si parfois il leur arrive, par un premier mouvement naturel, de se réjouir de l'affection qu'on leur porte, mm-hmm. elles reconnaissent aussitôt rentrer en elles-mêmes que c'est là une folie. Mm-hmm. Ce sentiment n'a pas lieu lorsqu'il s'agit de personnages qui peuvent les aider par leur science et leur oraison. Toute autre affection les fatigue. Elles comprennent qu'elles n'en tireront aucun profit et pourraient en recevoir de graves dommages. Elles ne laissent pas toutefois d'avoir de la reconnaissance pour eux et les payent en retour en les recommandant à Dieu, car c'est lui qu'elles chargent de ce soin. Elles comprennent que l'amour dont on les honore vient de lui, puisqu'il semble qu'elles n'ont rien en elles-mêmes qui mérite d'être aimées, et que si on les aime, c'est parce que Dieu les aime. Elles laissent donc à sa majesté le soin d'acquitter leur dette de reconnaissance, le prix dans ce but. Puis, elles demeurent libres, comme si cela ne les regardait plus. Je continue ?
Oui, encore un petit bout.
Après avoir bien tout considéré, je pense quelquefois que s'il ne s'agit pas de personnes qui, comme je l'ai dit, puissent nous aider à acquérir les biens parfaits, il y a un profond aveuglement à vouloir être aimé des autres.
Bien.
Remarque.
Ça va, c'est bon, merci. Ça, c'est le paragraphe 5, vous voyez ? Donc, nous avons ce sérieux, cette exigence, cette vérité de l'amour, hein, vouloir attirer à soi l'attention, l'affection, hein, c'est un aveuglement. En soi, on n'a rien d'aimable. Si on est aimé par les autres, cela vient de Dieu. Et l'amour que l'on peut rendre et porter aux autres, c'est en vertu des biens, du bien spirituel. Hein. On marche avec eux, ils nous font marcher, avancer. Bon, c'est pas très facile tout ça, comme vous pouvez voir. Hein. Ce serait bien de lire le paragraphe 7, alors on va peut-être pas se demander à un autre lecteur pour que vous ne soyez pas en berlificoté. Tu l'as, non, ça ?
Non.
Ah, non plus. Qu'est-ce que ça Antoine, tu as ça ? Ouais, dans le 7. Le début du paragraphe 7, en sautant le 6, c'est pour ça que c'est plus commode, oui, le paragraphe.
Quand cette vérité se présente à leur esprit, elles rient d'elles-mêmes en songeant au temps où elles étaient en peine de savoir si leur affection se trouvait ou non payée de retour. Sans doute, même dans une amitié vertueuse, il est très naturel de désirer ce retour d'affection. Mais lorsque nous l'avons obtenu, nous constatons que nous avons été payés avec des brins de paille. Nous n'avons obtenu qu'un souffle, une chose sans consistance, et que le vent emporte. Et en effet, quand nous aurions été aimés d'un grand amour, que nous en resterait-il ? Aussi, ces âmes sont-elles indifférentes à être aimées ou à ne pas l'être ? À moins, je le dis, je le redis encore, qu'il ne s'agisse de leurs biens spirituels et des personnes dont j'ai parlé plus haut. Parce qu'elles savent très bien qu'étant donné notre nature, le dévouement se lasse vite s'il n'est pas soutenu par l'affection. Vous pensez sans doute que de telles âmes n'aiment et ne savent aimer personne, si ce n'est Dieu.
Bon, alors voilà une objection qui s'approfondit. Hein. Donc on aime Dieu, on aime tout le monde en Dieu, mais finalement on n'aime personne. Bon. Donc c'est tellement spirituel que finalement, bon voilà, hein, c'est ça, hein, d'accord. Bon, on pourrait croire qu'elles ne veulent aimer que Dieu. Alors, c'est amusant de voir les réponses qu'elles donnent immédiatement. Tu peux me dire ?
Erreur.
Erreur. Non, c'est ça, c'est bien traduit.
Elles aiment et bien plus que les autres, d'un amour plus vrai, avec plus de passion. Et leur amour est bien plus profitable. Enfin, c'est de l'amour. En outre, ces personnes sont toujours beaucoup plus portées à donner qu'à recevoir, et elles sont dans cette disposition vis-à-vis du Créateur lui-même. Je vous le déclare, cette manière d'aimer est celle qui mérite le nom d'amour, et ces autres affections, si basses, n'ont fait que l'usurper.
Bien, donc il s'agit d'un amour véritable du prochain. Hein? Elle est très véhémente là. Hein? Il s'agit d'un amour plus vrai, plus passionné, plus véritable. Pourquoi ? Parce qu'il est désintéressé. Et parce qu'il est bienveillant. Il est plus enclin à donner qu'à recevoir, comme dit saint Paul. Voilà. Alors, on a encore une autre objection, vous voyez. Cet amour. On aime toujours le bien. L'amour nous porte vers le bien. Alors, qu'est-ce qu'on va aimer chez les autres ? Vous voyez la question ? Bon, elle est quand même très psychologue. Hein. Parfois, elle me saoule un peu avec tout ça, mais bon, il faut reconnaître qu'elle est fine dans la psychologie, quand même. Hein. Alors, pourquoi on va se passionner chez l'autre ? Si cet amour ne va pas à ce qui apparaît, aux apparences, à ce qui est insignifiant, hein, à quel bien s'attache-t-il ? L'amour se porte vers le bien. On est d'accord. C'est de la pure... c'est de la bonne philosophie, hein. Qu'est-ce qui motive l'amour ? Qu'est-ce qui l'attire ? Paragraphe 8.
Vous direz encore, si ce n'est pas ce qu'elles voient qui cause leur amour, sur quoi se porte leur affection ? Je réponds qu'elles aiment ce qu'elles voient et s'attachent à ce qu'elles entendent, mais ce qu'elles voient est stable. Ces personnes, lorsqu'elles aiment, ne s'arrêtent pas au corps. Elles fixent leur regard sur l'âme et examinent s'il se trouve en elles quelque chose à aimer. Si elle ne les découvre pas, il suffit d'apercevoir un faible germe, une simple disposition annonçant qu'une fois creusée, cette mine pourra donner de l'or. Alors, leur amour compte pour rien le travail. Tout ce qui peut s'offrir, elles l'embrasseront de grand cœur pour le bien de cette âme. La raison en est qu'elles veulent continuer à l'aimer. Or, elles savent très bien que cela ne leur sera possible que si cette âme a des biens spirituels et un grand amour pour Dieu. Elle aura beau les prévenir de toutes les manières, les aimer de plus violent amour, leur rendre toutes sortes de bons offices, avoir en partage toutes les grâces de la nature réunie, l'amitié restera languissante et n'aura pas de fermeté. Ces âmes savent par expérience le néant de tout, elles ne seront pas dupes des apparences. Elles voient qu'elles ne sont pas faites pour s'entendre avec de tels amis, que leur affection mutuelle ne pourra subsister. Et en effet, si la personne aimée ne respecte pas la loi divine, une telle amitié finira avec la vie. Or, il est clair qu'elle n'aime pas Dieu et qu'en conséquence, il faudra aboutir à des termes différents.
Mm-hmm. Encore un peu du paragraphe 9, est-ce possible ?
Ainsi, ces âmes en qui Dieu a infusé la véritable sagesse n'estiment pas, au-delà de ce qu'elle vaut, une affection qui ne dure que le temps de la vie. Que dis-je ? Elle ne l'estime même pas à sa valeur, car enfin, pour ceux qui recherchent la jouissance des biens de ce monde, les délices, les honneurs, la fortune, elle a bien quelque prix, l'amitié d'une personne, et a même de leur procurer des passe-temps et des plaisirs. Mais lorsque l'on a tout cela en horreur, on estime très peu, ou même pas du tout, une semblable amitié. Alors donc qu'elles aiment, ces âmes, leur passion est d'arriver... et d'arriver à ce que la personne aimée aime Dieu, oui. Afin qu'elle soit aimée de lui. Mm-hmm. Autrement, je le répète, elles savent qu'elles ne pourraient pas continuer à leur donner de l'affection. Du reste, si elles l'aiment, c'est beaucoup à leur dépens. Elles n'omettent rien de ce qui est en leur pouvoir pour son avancement. Elles donneraient 1000 vies pour lui procurer le moindre bien spirituel. Au précieux amour, qui imite de si près le prince de l'amour, Jésus notre bien.
Ah, c'est pas le prince, c'est le capitaine de l'amour. D'accord ? Bon. Alors, nous pouvons retirer de tous ces méandres thérésiens. Elle écrit en parlant et elle écrit comme elle parle. Voilà. Hein ? Voilà, le bien qui va motiver notre amour pour l'autre. Ce qui est solide. Ce qui est commencement d'éternité, ce qui dure, la grâce, les biens du ciel, l'amour de Dieu en l'autre. Vous avez pu remarquer que le regard porté sur l'autre est assez intéressant, c'est un regard
qui va construire en l'autre. C'est un regard qui édifie. S'il voit un germe de bien, alors il creuse pour développer le bien. C'est un regard de profondeur. Il est question de mine d'or. Bon. Qui devient service, sacrifice, prière pour que l'autre grandisse, pour que le bien grandisse, pour que l'autre grandisse dans le bien spirituel. C'est donc un amour de bienveillance, qui veut le bien, qui espère, qui suscite le bien stable dans l'autre, le bien éternel. Et, évidemment, la clé, elle est à la fin, c'est très embrouillé, mais elle est à la fin. C'est la passion, donc c'est un amour passionné, pour que l'autre, pour que cette âme aime Dieu, soit aimable et soit aimé de Dieu. Cet amour se passionne pour que l'autre soit aimé de, pour que l'autre aime Dieu et soit aimé de lui. Voilà. L'amour spirituel est, comme toutes les vertus présentées par Thérèse dans ces chapitres, la clé, hein, l'exemplaire, le centre, c'est le Christ. Précieux amour qui imite le capitaine de l'amour, Jésus, notre bien. Vous vous rappelez toutes les images militaires du début du chemin. C'est lui qui personnalise les vertus, c'est très important dans le chemin de la perfection. La pauvreté et l'humilité, ce sera la même chose. Au chapitre 7 de l'édition licite, ou au chapitre 8 du seuil, dans les pages qui suivent, donc Thérèse va décrire l'ardeur de cet amour pour le progrès de l'autre, son angoisse, sa tristesse devant ses reculs. Un amour qui peut se faire compassion, mais qui peut se faire exigence aussi si l'autre souffre pour un bien. C'est vraiment la bienveillance du vrai bien de l'autre. Une lucidité sans complaisance. Dans ce chapitre, Thérèse montrera que cet amour spirituel a toutes les richesses divines du Christ et toutes les délicatesses humaines du Christ. Il y a un certain nombre de points concrets, d'attitudes qui le vérifient. Vous irez voir, hein, je résume rapidement. De la compassion devant les souffrances des autres, sans sensiblerie, sans faiblesse, mais sans dureté non plus. De l'indulgence et de la miséricorde. À un certain moment, alors elle a cette phrase, il est très nécessaire à celles qui désirent la souffrance et à qui rien ne coûte, qui sont très vertueuses, de s'efforcer de se rappeler le moment où elles étaient faibles, et de voir que si elles ne le sont plus, cela ne vient pas d'elles. Donc voilà. Savoir accepter aussi, ne pas se juger au-dessus des faiblesses des autres. Hein. Ne pas se scandaliser des fautes d'autrui, renoncer à porter un jugement global sur les personnes. Bon, très bien. Elle donne aussi comme fruit de l'amour la joie. Et devant les limites, les défauts, les péchés, les misères des autres, une réaction de souffrance, de peine, et non pas de colère, d'irritation et de jugement. Patience, support, prière, et témoignage accru du bien et de la vertu. Savoir prendre sur soi les fardeaux des autres et se réjouir des progrès. Ça va tout ça ? Bon, ben, vous voyez, hein, c'est... sympathique. Hein. C'est le concret et le progrès de l'amour vrai, parfait, vertueux, spirituel, qui reste une grâce, un don, enraciné dans cette connaissance source donnée par Dieu dans la prière. C'est un amour libre mais aussi délicat, respectueux, affectueux. Et c'est vrai, le Père Marie-Eugène le dit dans le chapitre sur les amitiés spirituelles, s'intéresse à le génie de cet amour. Mais en fait, ce qu'elle dit ne fait que reprendre l'enseignement parénétique des épîtres de saint Paul, hein, dans leur concret, hein, tout simplement. Voilà, alors on fait la pause, nous prendrons les points suivants.